Asseyez-vous. C'est parti pour un voyage sonore authentique, à la rencontre des arts et des artistes. Du vent dans les pages sillonne Marseille et ses environs avec curiosité. On met le cap sur la poésie, littérature, photographie, peinture, art de la rue, art du cirque, théâtre, danse contemporaine. Appuyez sur pause. Avec un peu de chance, avec un doux hasard, on convoque l'humain, l'audace, le portrait, la parole vraie. Du vent dans les pages, déambulation marseillaise.
Du vent dans les pages, avec Chloé. Sensible
rencontre
avec Masha Makeyev. Exposition Trouble Fête. Collection curieuse et choses inquiètes.
Alors, si on veut paraître intelligent et chic, on va dire que c'est une affaire de site spécifique. C'est-à-dire que c'est les troubles faits, c'est une aventure, c'est un récit immobile qui se pose ici ou là où on l'invite. Alors, il a été invité à la maison Jean Villard à Avignon. Et puis cette année, il est invité dans un endroit magnifique, place de l'Archevêché, le musée des tapisseries à Aix-en-Provence. Sept grandes salles. Et j'ai déposé ce récit, je l'ai réinventé pour ce lieu-là. J'ai convoqué les fantômes qui étaient déjà là. J'ai rassemblé les animaux du Muséum d'Histoire Naturelle qui étaient déjà mes compagnons à Avignon. Et j'ai étendu, parce que c'est tellement grand et tellement beau et tellement solennel, j'ai étendu le récit à d'autres espaces et donc à d'autres fragments du récit.
Second volet de notre rencontre avec Masha Makeyev, metteur en scène, plasticienne, auteur, scénographe, costumière et directrice de théâtre. Alors qu'elle est en pleine tournée pour la mise en scène du Tartuffe de Molière, Masha prend le temps de sortir du théâtre de la Criée, le centre dramatique national de Marseille qu'elle dirige, et ce depuis 11 années. Elle nous présente aujourd'hui l'expo itinérante intitulée « Troubles fêtes, collection curieuse et choses inquiètes ». C'est une exposition accueillie au Palais de l'Archevêché d'Aix-en-Provence, comme au TNP, le Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Ici, tout est spectacle à la croisée des arts. L'art de Masha retient ce qui nous unit tous. L'enfance, un réel écrit avec du vibrant, un enchantement qui est aussi une forme de politesse. C'est comme elle aime le qualifier, un spectacle immobile. Auprès d'elle, nous avons fait un premier voyage à travers les trois premières salles de l'installation, avançant dans ce récit en commentant certains mystères, en acceptant l'état des lieux de cette scénographie sensible. On y a déjà croisé des costumes, des éléments de décor des spectacles précédents, une ménagerie d'une centaine d'animaux naturalisés, des ossements, des valises, des vestiaires, des vestiges d'objets, des vertiges de mots, des miroirs, des invités fantômes, le chaos de la révolution de la Russie impériale et de ses grands-parents officiers du tsar, le petit frère Georges, disparu en lui-même, des échos aussi au spectacle Lévis Versailles, Alice et des hommages aux amis cinéastes Jacques Tati et Agnès Varda. Une installation célébration comme une scène, comme un récit. Vous venez ? On reprend la visite en compagnie de Masha.
On arrive dans une pièce qui est comme un carrefour,
qui s'appelle
la chambre rare. Alors dans cette chambre rare,
Ce que je voulais, c'est qu'on soit désorienté. C'est un état, c'est ce que Lewis Carroll appelle l'état, une partie de l'état féeristique, c'est-à-dire qu'il faut être désorienté. Et s'il fait tomber Alice notamment, mais aussi dans d'autres romans, s'il fait tomber Alice dans, au fond d'un trou, c'est précisément pour qu'elle ne sache plus où est l'est, le nord, le sud. Et dans cette pièce, après tout, elle se proposait comme ça. Et puis, quand j'ai visité les lieux la première fois, avant d'avoir posé le premier objet, les conservatrices, la conservatrice et les gens qui s'occupaient de ce musée se sont excusés en disant, voilà, vous savez, il y a deux grandes armoires trop hautes, on ne sait pas où les mettre. On les a posées là, qu'est-ce que vous voulez, il faut faire avec. Mais évidemment, j'ai bien vu là aussi le clin d'œil de Lewis Carroll qui me mettait des armoires disproportionnées. Et donc, pour les reproportionner, j'ai invité le rhinocéros qui s'appelle Hank, et qui du coup fait que les armoires ont une taille tout à fait normale. Elles servent évidemment de petits cabinets de cabinets de curiosité, voilà, avec un Fennec qui est pas loin de marionnettes et d'une collection de chapeaux des années 50, chapeaux fleuris et des choses, des reposoirs aussi, parce que si on s'approche, je travaille beaucoup sur la symétrie en raison du miroir carolien. Et donc là, voilà, il y a deux petits gisants noirs. Ils ne sont que des blouses, des colliers et des collières, et puis des traces de l'enfance, dans ce que l'enfance peut avoir aussi de violent et qui fait qu'on ne sera jamais tranquille toute la vie. Définitivement, quelque chose a eu lieu qui fait qu'on sera toujours en alerte, on sera toujours en train de regarder le monde avec une certaine méfiance, un émerveillement, et tout de suite, juste à côté, un peu de méfiance.
Lecture des écrits de Macha à propos de la chambre aurore. Après l'effroi, jouez encore. L'envers des choses. Spectacle immobile. Animaux sages. Les choses sur terre. Les choses rêvent. Ne pas tout dire de l'enfance infinie triste. Un malheur humain. Allez au monde étonnant. Elles nous font visionnaires les choses, pour peu qu'on les désigne voyantes, filles d'enchantement. Leur existence me serre le cœur plusieurs fois par jour. Je croise le regard étonné du chien de Karamazov, rapporté à l'atelier après une longue tournée et déposé sur ma table, immobile, toujours.
Ce monde où j'allais ne t'accueillait pas, tu n'avais pas de place dans la ronde. Nous serons, toi et moi, des enfants inconsolables et méfiants. J'ai maudit le sagage, l'inutilité de cet arrachement. Séparés de toi, j'ai compris que nous étions l'un et l'autre de petits mortels. On s'est laissé y tomber l'enfant du tabouret rouge, dans quel rêve, dans quel monde, pour rejoindre le roi. Je me rappelle ton bras sur le front d'enfant de 4 ans, mon émotion devant ton geste de crainte. Rien ne meurt de ce que l'on a aimé redouter dans cette année d'enfance. Rien ne meurt de ce que l'on a aimé redouter dans cette année d'enfance. Rien ne meurt de ce que l'on a aimé redouter dans cette année d'enfance. Je vais laisser t'y tomber l'enfant. Je vais laisser t'y tomber l'enfant. Cette petite fille intacte, enfant irréductible est là, incluse en moi, et ma vie passe et la petite fille en alerte demeure, vigie de mes rêves, de mes actes. Elle impose la marche des choses, l'intrigue de mes jours, elle est ma douleur et ma grâce.
Macha Makeyev, Trouble Fête. Collection curieuse et choses inquiètes. La visite se poursuit. On a reparlé de l'enfance.
C'est pas un chemin de rose. C'est pas confortable l'enfance, pas du tout. C'est très exigeant parce que c'est souvent cruel. Et d'ailleurs, Lewis Carroll le raconte très bien. Quand on l'enlève du presbytère où il était avec une très nombreux frères et sœurs, qu'on le met dans un collège à l'époque, avec des rituels très violents sur l'enfance, avec une brutalité, presque une sauvagerie de petits bourgeois très soi-disant bien dressés, mais qui étaient aussi dressés à la sauvagerie sur le plus fragile. Donc je crois qu'il fait allusion à ces souffrances-là, avec beaucoup de pudeur, bien sûr, parce que je crois qu'il ne faut jamais être dans un récit trop cru. Ben là, on a Karamazov. Alors, Karamazov, c'est le chien que Jean Bellorini, qui a monté les frères Karamazov, a transporté parce qu'il avait besoin d'un chien. Et donc, il a fait toute la tournée, il était avec les acteurs, il a beaucoup joué. Et là, il s'interroge d'une façon très lacanienne devant le miroir. Pourquoi son oreille noire est à gauche et son côté blanc est à droite, alors que sur lui-même, c'est le contraire. Voilà. Évidemment, lui aussi, il a une niche trop petite. Les objets jouent des tours.
Là, on entre dans la chambre excentrique, après la chambre excentrique, c'est celle du festin. Alors, une grande table, j'ai eu la chance d'avoir évidemment cette enfilade de salles, et ça, c'est un bonheur. En termes scénographiques, c'est une joie, et en termes de récit. Donc, j'ai posé cette grande table de festin sur laquelle il y a un crâne de rhinocéros, un cétacé et un jeune hippopotame, et puis des costumes 18e. Et Christian a mis dessous et dessus la table le son d'un festin très mystérieux avec des bruits de couverts. Et on peut se demander qui sont les reliefs. Est-ce que c'est les animaux qui ont dévoré les hommes d'abord ou est-ce que ce sont les hommes qui ont dévoré les animaux? Toutes choses qui aujourd'hui sont... Voilà, c'est une très bonne question. Alors ici, évidemment, c'est une chambre excentrique. Peut-être aussi parce qu'à côté de la table, il y a le lit. Alors, c'est un lit à baldaquin et il y a mon lion. Alors, mon lion, on ne quitte jamais. Généralement, l'atelier, il ne le quitte que pour aller dans le lit de Madame Récamier au Louvre ou sur scène ou dans Éblouissante Venise, l'exposition que j'ai faite au Grand Palais. Et puis là, voilà, je trouvais qu'il fallait, c'est la moindre des choses, de l'inviter. Voilà, lion, si on écoute, il y a un récit de mon enfance un peu difficile aussi. Lion, c'est... C'est probablement à voir avec la ville de Lyon, à mon insu, un jour, comme ça. Mais ce lion me protège et d'une ville qui ne m'a pas protégée.
Dimanche. De retour de la promenade, nous avons trouvé la maison de Fleurieux entièrement vidée. Tout avait disparu. Les rideaux, le linge, la vaisselle, les couverts, les casseroles, les chaises, les draps de nos lits et les couvertures, nos vêtements d'enfants, le carillon, les jouets, le berceau, ma boîte rouge. La grande maison était plus étrange que jamais, château sonore. On a dormi sur le lit comme sur un radeau. Dans mes fantaisies, je célèbre les choses perdues dans un déménagement. Oublié dans une maison, parce qu'on vous transporte endormi, parce qu'on ne vous laisse pas aller reprendre ce que vous aviez caché dans le creux d'une cloison, la faille d'un mur. Parfois, je m'identifie à la chose perdue et je la pose dans la lumière pour la consoler.
Ce chaos de l'enfance a donné le désordre de mes rêves actuels, mes impatiences, mes chemins de traverse néfastes et douloureux où je me perds. Un dimanche, on m'avait coupé les cheveux courts. Les longues mèches tombaient dans une serviette posée au sol. Georges a pleuré. Un bout de soie de son corps, c'était mort ou vivant. À qui ça appartenait à présent? Ça se jette, les cheveux. Je les ai enterrés dans le jardin. Et puis, on détestait retirer nos souliers. On résistait chaque soir au coucher. On les a parfois remis dans le lit en douce.
Du vent dans les pages, Masha Makeyev. Trouble fête. Collection curieuse des choses inquiètes.
Au beau milieu de la salle 5 coule la démesurée table d'un festin tragique. La dramaturgie rencontre le vécu. Les objets volés sont autant fugaces que l'évocation des débuts de la photographie que projettent les miroirs.
Déambulation des animaux, avec les deux miroirs de Lewis versus Alice, ce sont des miroirs forains. Et je voulais que le public puisse se voir et faire partie de l'image, et que ce jeu de miroir nous inclut le visiteur, la visiteuse, avec les animaux et l'interrogation des animaux se regardant dans le miroir, et que chacune trouve sa place dans ce récit.
Et là, c'est quand même le lapin blanc, là, on
oui,
fait un peu...
Oui, bien sûr, il y a le lapin blanc, et puis il y a les singes jumeaux aussi, la gémilité, bien sûr, toujours chez... comme de côté du miroir. Et puis sur ce miroir-là, je voulais vraiment qu'il y ait des projections, comme dans le spectacle. Et je voulais ces projections, et comme un palimpseste aussi, où nous voyons. Là, on voit un petit garçon qui s'appelle Mishka et qui représente Lewis Carroll enfant, qui s'appelait Charles, le petit Charles, qui était donc aussi un numéro dans la fratrie. Lui, c'était le numéro 3. Mais si j'ai voulu ces projections, c'est pas uniquement pour le plaisir, c'est que ça raconte vraiment, ça fait l'éloge du photographe qu'il était. Lewis Carroll, c'était un des premiers photographes. C'est-à-dire qu'il avait là aussi, là, dans quelque chose de l'émerveillement des premiers photographes. C'est-à-dire que c'était sur des plaques qui apparaissaient, c'était très compliqué, la prise de vue était très longue, ça apparaissait, c'était souvent raté, c'était très humide, le collodion tachait ses doigts, c'est pour ça qu'il portait toujours des gants. Mais quand il voyait l'apparition, comme on voit là en ce moment, et bien quand il voyait cette chose-là, il pensait que c'était quelque chose de l'ordre de la magie, du surnaturel en tout cas. C'était comme les fées, c'était comme les elfes, de l'âme de ce qu'il photographiait, que ce soit des objets ou des gens, de l'âme qui arrivait. Et c'était quelque chose d'assez sacré, hein, c'était pas du tout de la consommation, de la prise d'image qu'on ramasse comme ça. C'était magique, dans le vrai sens profond du terme. Je décris pas là, que je laisse... C'est vraiment à chacun, chacune de voir ces jeux de correspondance. Mais là, je voulais vraiment raconter ce que ça a dû être l'émotion très pratique, très technique et à la fois très mystique des premières photographies, des premiers photographes, parce que ça a été un photographe magnifique, Lewis Carroll, bien sûr.
C'était raté, plus souvent, c'était pathétique. J'attendais 10 heures en pause et puis après, rien.
Et avec ce rien-là, tout ce qu'on peut faire.
Le ratage était là aussi le hasard, je crois. Ils inventaient la photographie avec une suite de hasard. Oui.
Et les premiers, les poètes maudits, etc., qui étaient fascinés par la photographie, enfin, Baudelaire entre autres, mais beaucoup, et même Hugo. Oui.
Les avoir opposés si longtemps nous paraît aujourd'hui absurde. Mmh. C'est vraiment...
Un dialogue, toujours, oui. Oui.
Dans les pages avec Chloé.
Alors, toujours des reliques, bien sûr. C'est des reliques que j'avais à l'atelier, puis des choses que j'ai fabriquées pour l'exposition. Évidemment, les deux loups qui nous accueillent, et puis forcément, dans les contes de l'enfance et dans nos mythes à nous, les plus ancestraux, il y a les ossements tout, pas trop loin des loups. Alors, bien sûr, il y a cet aspect-là qu'on... pour chacun, et pour moi il y a quand même l'obsession, j'en ai toujours dans l'atelier, ça vient de mon atelier, j'ai toujours des os parce que je crois dans mon enfance on me lisait la Bible tous les jours, hein, c'était une lecture quotidienne, et on parlait toujours des os blanchis pour la mort, et j'aimais beaucoup, il y avait sépulcres blanchis. Alors, vous êtes des sépulcres blanchis, donc des hypocrites. Mais il y avait aussi les os blanchis pour dire que voilà, dans sous ces climats-là en Palestine, eh bien, les eaux devenaient comme ça, c'est-à-dire un matériau sublime, encore plus beau que les pierres. Et il y avait quand même la trace, la forme de l'animal, en l'occurrence, et quelque chose d'immédiatement sacré. Voilà, et quand on les éclaire, c'est étonnant. Voilà. Donc, j'aime beaucoup les reliques, d'autant plus que dans l'éducation que j'ai reçue, qui était très, très suave et très à la russe, en protestantisme russe, il faut l'inventer quand même, et bien voilà, on nous disait que les reliques c'était vraiment une anomalie, c'était quasiment une interdiction, les églises catholiques c'était vraiment plein de reliques, c'était une horreur et qu'il fallait être en lien direct avec Dieu, ce que je trouvais assez austère et assez rude. Et j'adorais les églises précisément pour les reliques, notamment Saint-Victor, des choses admirables. Voilà, donc je m'en fabrique.
Puis encore là dans les choses reçues, les choses transmises et ce que la trace en fait qu'elle a fait aussi, que vous avez accepté qu'elle fasse en vous, il y a quelque chose de dense aussi, rien que dans l'héritage au niveau de mystique, entre la vision orthodoxe, le protestantisme, le catholicisme, enfin rien que dans cet héritage-là, on a déjà un sacré foisonnement, en fait.
Là, tout à l'heure, vous avez vu s'imprimer l'enterrement du comte d'Orgaz. C'est pas par hasard. C'est-à-dire que, moi, quand je travaillais beaucoup sur les Lewis Carroll, bon, bien sûr, j'ai vu les peintres de l'époque, hein, bien sûr, les Millet, tout ça, bien sûr, c'est la moindre des choses. Mais c'est pas eux qui m'ont inspiré, alors que je pars toujours des peintres. C'est lui, c'est El Greco. Parce que dans ce tableau-là, il y a en bas une société très corsetée, tous ces hommes en noir. Il y a ce jeune homme en armure qui est porté comme un... C'est vraiment comme une déposition, il est sublime. Mais on dit qu'il est mort, mais on a l'impression qu'il dort. Vraiment, premier plan, il y a un enfant qui regarde et qui sourit en disant « Moi, je sais très bien qu'il dort, qu'il n'est pas mort ». Et c'était aussi une transgression parce que vraiment, le peintre n'avait pas à mettre son enfant en premier plan alors qu'il y avait d'éminents personnages derrière. Non, donc il y a une transgression, mais l'enfant sait. Il nous dit, je sais ce qu'il y a derrière moi. Je sais que vous regardez ce tableau et ce que ça dit. Et puis dans la deuxième partie du tableau, il y a le ciel. Alors autant en bas, c'est raide, hiératique, etc., autant là-haut, c'est le chaos. Ça pendouille de partout, il y a la clé de Saint-Pierre qui traîne, il y a des membres enlacés, ça tourne, c'est le chaos. Et je pense que il est à l'exact endroit de Lewis Carroll. C'est-à-dire qu'en bas, il est dans une société victorienne, et lui-même, professeur de mathématiques à Oxford toute sa vie, impeccable, voilà. Mais là-haut, dans son imaginaire, dans son surnaturel, c'est ce que nous dit l'artiste, là-haut, croyez pas ça, c'est le chaos, c'est vous qui êtes figé, la société. Là-haut, c'est la folie. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup et je trouvais que j'avais envie que le spectacle raconte ça.
Donc l'imaginaire, il est plutôt en haut et vous, votre job, c'est vous le redescendez en permanence sur le plateau, en fait. C'est ça aussi. Hein.
Ces poètes, ces peintres nous racontent tout. Mmh. Et surtout, moi, j'aime beaucoup la rencontre avant de commencer le travail avec un tableau, un peintre, une artiste. Dans cette exposition, j'ai invité, on verra, Agnès Varda, parce que c'était la moindre des choses, mais parce qu'elle est très présente. Voilà, et justement, en parlant d'Agnès, là, on va arriver dans la sixième pièce, qui est... On rentre dans une volière, c'est-à-dire que c'est nous, visiteurs, visiteuses, qui devenons des oiseaux. Les sons que vous entendez sont artificiels. On croit entendre des cris d'oiseaux, de la nature, le vent. Et tout ça est fait à partir de... Comme au théâtre, c'est le royaume de l'artifice. Et ça répond très bien à ce mur d'oiseaux qui paraissent costumés comme des acteurs et des actrices qui vont entrer en scène, des divas qui viennent, ils ont des robes et des costumes sublimes dans des orangés, des bleus, des rouges, des noirs et blancs. Certains sont presque en smoking, comme ça, en tenue de soirée. J'ai mélangé quelques chapeaux de plumes pour les accompagner, pour un peu de fantaisie. Et j'ai mis un crocodile pas très loin pour créer une certaine dramaturgie. Voilà, mais du coup, on peut s'asseoir. Le public s'assoit, le visiteur, la visiteuse s'assoit, écoute, et c'est un moment de contemplation. Et si j'évoquais Agnès, c'est que Agnès Varda, quand elle venait à mon atelier, elle est venue plusieurs fois et immanquablement, on avait toujours la même conversation. Et elle m'a donné des secrets parce qu'elle était très généreuse avec les artistes. Mais notre conversation était sur la mobilité et la presque immobilité. La presque immobilité au théâtre, la presque immobilité dans la photographie, la presque immobilité dans les choses. C'était venu d'un jour où elle me dit « Mais toi, t'es bête, ça bouge pas. » Alors je lui ai dit « Mais attends Agnès, regarde 3 minutes, ça bouge. » Elle m'a dit « Mais oui, mais il faudrait que tu fasses du cinéma. » Je lui ai dit « Non, moi, c'est pas mon univers. » Parce que il n'y a pas d'immobilité. Le regard fait que ça bouge tout le temps. Et que peut-être même qu'il bouge, qu'est-ce qu'on en sait ? Et cette part de ce regard qui nous autorise au surnaturel, d'aucuns diraient au surréalisme, parce que enfin, moi je suis plus dada que surréaliste, mais mon cœur va plutôt du côté des dada que des surréalistes, parce que ils sont plus accrus ceux-là. J'aime beaucoup cette contemplation de la presque immobilité. Voilà, c'est un moment.
C'est un tableau absolument vibrant et vivant.
Oui. Mais là aussi, oui, quand on accueille les autres artistes, c'est quelque chose de formidable. Écoutez ça. On croirait un vol des tourneaux. Tout est faux. Donc c'est encore plus vrai que le vrai. Voilà, c'est une phrase que j'aime beaucoup aussi. Les gens qui n'existent pas sont bien plus gentils que ceux qui existent. Je trouve que c'est très bien pour le théâtre. Et puis, la chambre excentrique, je fais allusion à des choses, vraiment, alors là, une anecdote d'enfance où un dimanche, on revenait du temple où il y avait eu une réunion de prière infinie, éternelle, terrible. Et on est rentré dans une de nos maisons, mes parents déménageaient tout le temps. C'est une grande maison avec un grand jardin, parce qu'on était très nombreux. Et il n'y avait plus rien. Et quand je dis plus rien, il n'y avait plus rien. J'avais tout enlevé. On n'avait plus de vêtements, on n'avait plus de jouets, on n'avait plus de draps, on n'avait plus de couverture. Dans la cuisine, il n'y avait plus un seul ustensile. Il n'y avait plus rien, sauf les livres et aussi un gros poste de radio. Et alors, on a dormi sur les lits, sans draps, dans nos petits paletots. Et on avait l'impression d'être sur des radeaux. C'était magnifique, le son avait changé, un peu comme ici, c'était très bizarre. Et on s'est couché le ventre vide, et mon père, avant qu'on ne se couche, c'est beaucoup dire se coucher, qu'on essaie de s'endormir, nous avait dit, écoutez, remercions le Seigneur, parce qu'en fait, nous avons donné à des gens qu'on ne connaît pas, tout ce qui est parti sera utile à d'autres. Bon, j'avais trouvé ça un peu raide, parce que mes jouets, je trouvais que c'était un peu dur, mais... Ça avait rejoint les récits de ma grand-mère qui parlait toujours des objets qu'elle n'avait pas. Oui, et puis je rêvais, je me disais, très longtemps, je me suis dit, mais c'était où ? Ils sont où ? Ils étaient où ces objets, tout ça ? Mes jouets, ils sont allés où ? Alors après, la police nous a raconté que c'était des gitans qui avaient pris ça. Et mon père trouvait ça toujours aussi bien. Il disait, ben voilà, c'est les plus pauvres qui ont eu ce que nous avons. Enfin, moi, j'ai été éduquée comme ça. Donc, voilà. Mais des objets flottants dans mon esprit, ça me donnait une certaine ivresse.
Et il y avait donc, vous parlez de ce moment-là où il y avait la radio, l'apport du son, encore une fois, dans votre vie. Et ça, c'est à ce moment-là aussi que vous avez été autant sensible à...
Oui, parce que la radio, je l'écoutais avec mon petit frère et on avait acquis un rituel à tel point précis qu'on courait, on jouait dans le jardin, enfin on jouait, c'est beaucoup dire, dans le jardin, on arrivait et on tournait le gros bouton sur « ça va bouillir », ce qui était une publicité de l'époque. Et on avait tellement intégré le rituel qu'on arrivait quasiment toujours au bon moment.
Donc ça, c'était
magique aussi.
De réassurance et de
oui,
partage.
On se disait, voilà, nous on décide qu'on va entendre « ça va bouillir ». Et bon, on entendait « ça va bouillir ».
Magique.
C'était magique. Ça nous rassurait.
La poupée. La poupée d'alcôve, aperçue sur un dessus de lit raide dans une pièce immobile comme un mausolée, adulée par sa propriétaire, interdite au jeu. Découvert le plaisir trouble, équivoque, de l'attirance et de la détestation pour ce personnage de plastique tendu au visage blême. C'était peut-être comme cela que nous ressentaient les adultes. Le regard creux, coque vide, les mains sans mobilité, porte-manteau par vagues de laine. Peut-être comme ça, assis sur un lit, sans souffle, décoratif et absent, nous aurait-il regardé et choyé? Fin d'enfance, la route, pour une infinité de surprises comme des confettis, le grand enchantement, quitter les petits devoirs sans ambition qu'on nous gardait en héritage, donner l'idée du ciel, du diamant, de l'or, du bleu. C'était pas mal la mobilette pour échapper, tirer au bord du côté de nos désirs. On truquait l'échappement pour filer dans le bruit et l'insolence. Ça partait de travers quelquefois.
Du vent dans les pages avec Chloé. Masha Makeyev, exposition. Trouble fête, collection curieuse et choses inquiètes.
C'était pas prévu qu'on expose ce qu'on pose, quelle fois que ce soit ici. C'était un peu la réserve, le stock. Mais j'avais le droit de la peindre parce que c'est une pièce où je pouvais peindre. Donc j'en ai fait la galerie des refusés un peu. Donc j'ai appelé mes refusés. Et puis après tout, je me suis dit, avec tout ce qui traîne sur les bras qui n'entrait pas dans les 6 premières salles, il faut bien raconter une histoire et c'est peut-être celle que je préfère. Donc c'est un peu comme au théâtre, quand les accessoires n'entrent pas dans la ronde. Je les mets dans des installations. Je laisse pas, ils sont sur le côté, mais pas pour longtemps. Donc on entend le Jabberwocky, qui est de l'anglais inventé par Lewis Carroll. On entend une soprane. Là, si on se penche, on entend un éloge de Agnès Varda.
le quotidien et le sacré. Agnès Rebelle-Louis. Vous n'êtes pas encore sorti. Ah, vous voilà. Je préfère. Voyons le passé. Et c'est vous qui êtes là.
Et alors, pourquoi suis-je là?
Le jeu est difficile, compliqué. Je ne vois pas très bien. Il faudrait en faire un autre.
Ouais. Et ça, c'est on tire les cartes à Cléo. La cartomancienne lui dit non, je ne vais pas plus loin. C'est vraiment c'est elle qui a inventé la nouvelle vague, hein, même si on a dit que c'était d'autres. Mais bon, à son époque, évidemment, c'était pas une femme qui allait inventer la nouvelle vague. Donc voilà, mais c'est elle. Donc vous voyez, j'ai fait un cagibi avec assez pop. Mais aussi avec une petite plage. Et puis, comme elle me disait toujours, mais quand est-ce que tu vas acheter une caméra? Alors, j'avais fait ce cagibi pour qu'elle le voie, il y a 2 ans pour Avignon. Je pensais qu'elle le verrait, et puis qu'elle me dirait des tas de choses. Et puis non, elle est passée de l'autre côté du miroir. Donc, j'ai rajouté un miroir moi-même, et j'ai fait mon seul, unique plan séquence chez moi, où j'ai posé chez moi tous les autoportraits photographiques d'Agnès, que j'ai filmé, et le dernier plan, la dernière image, c'est un bateau qui s'éloigne, évidemment grâce à la caméra, qui s'éloigne, parce que c'est une toute petite, tout petit dessin comme ça. Voilà. Et après, j'ai rangé ma caméra, parce que pour moi, le cinéma, c'est un art tellement mythique pour moi, que je pense qu'il faut une vie pour faire du cinéma. Mais voilà, donc elle m'avait demandé donc je l'ai fait.
De poupée toujours la même. Et ça pour ridicule. Je ne peux même pas lire ma propre peur. Depuis toujours, je pense que tout le monde me regarde et moi, je ne regarde personne que moi. C'est la seule.
Ne vous attendrez pas sur les grenouilles. Elles ne souffrent pas. Elles reverront le jour, dimanche et dans un moment.
Choisissez 9 cartes de la main gauche.
Je sais, 3 pour le passé, 3 pour le présent, 3 pour l'avenir.
Vous connaissez les tarots?
Un peu comme ça.
Vous n'êtes pas encore sorti. Le jeu parle mieux quand la consultante sort. Ah, vous voilà. Je préfère. Voyons le passé. Et c'est vous qui êtes là.
Et alors, pourquoi suis-je là?
Le jeu est difficile, compliqué. Je ne vois pas très bien. Il faudrait en faire un autre. Coupez, s'il vous plaît.
Je me mets en noir. Pour vos chansons, je serai dans la note. Un cri d'amour. Seul l'aide est livide. Voilà. Si je pouvais m'arracher la tête avec. Tu veux que je vienne?
Non, je vais être seule.
Cléo, je vous rappelle que c'est mardi. C'est mardi zut, je fais ce qui me plaît.
Minute, beau papillon. Être laide, c'est ça la mort. Tant que je suis belle, je suis vivante et 10 fois plus que les autres.
Alors on arrive dans le dernier endroit. Il y a 3 choses. Il y a un diaporama qui est tiré d'un livre que j'avais fait qui s'appelait Rivière pour une fin de siècle, où je fais l'éloge des objets les objets du théâtre dans la première partie des spectacles que j'ai fait. Des objets très très ordinaires, et à chaque fois je fais l'éloge de chacun d'entre eux, et dans un rituel, dans un bréviaire, selon une règle aussi que j'invente pour eux. Il y a aussi un film que vous voyez là, avec qui est sous forme, c'est un entretien filmé, mais c'était un moment que je trouve intéressant. C'est Hervé Castanet, qui est écrivain et psychanalyste, et qui voulait faire cet entretien, mais il me l'a arraché, c'est-à-dire qu'il m'a pas dit asseyez-vous, on parle. J'étais en plein montage de l'exposition, il est venu me titiller sur, évidemment, sur, c'était difficile de pas faire allusion à la psychanalyse et au point de vue du psychanalyste quand on parle de Lewis Carroll, du rêve et de troubles faits. Et donc, voilà, il est venu, évidemment, il posait des questions extrêmement pertinentes et très agaçantes parce que j'avais l'impression qu'on m'empêchait de travailler, mais en fait, ça n'a pas été tout à fait le cas. Je suis un peu de mauvaise humeur, mais bon. Et puis, je finis sur un texte, l'exposition se finit sur un texte où, au théâtre, nous sommes des somnambules. Je revendique une écriture du rêve qui dédouane du conformisme et de vérité déjà énoncée et inerte. Ce privilège du rêve est absolument à préserver. Aujourd'hui, il est mis en danger par une pensée simplificatrice et puritaine. Le souci de la transparence exige de réveiller les dormeurs et surtout de ne laisser rêver ni fantasmer quiconque. Dans cette imbécilité, le processus artistique est contesté. Le droit des artistes à jouer tel rôle, à tenir tel propos, à un peintre comme Balthus d'être exposé, est dénié. Il l'est parce qu'il démasque le monde conventionnel et le mensonge sournois de notre temps. C'est un texte de colère. J'ai écrit juste à la fin de l'exposition parce que une chose artistique en engendre une autre. Et là, je monte Tartuffe et je savais pas que c'était à cause de Tartuffe, mais quand je le relis, je me dis oui, c'est ça. Je suis en colère contre un nouveau puritanisme aujourd'hui. Voilà. Et une nouvelle doxa qui s'installe, qui est quelquefois souriante et qui semble bien pensante et qui, au fond, nous irait jusqu'à empêcher les artistes, l'impossibilité du fantasme, alors que les artistes et les peintres ont tous les droits. Voilà, c'est des lieux de tous les droits.
Et comment vous faites d'ailleurs enfin, même si ça se parle, tout ça correspond, on est d'accord, mais pour arriver à être dans quelque chose de tellement entier avec Tartuffe en ce moment, et quand même d'accompagner déjà l'après, moi c'est ça que j'aime.
Ça j'aime beaucoup, moi j'ai besoin de ça parce que, étant un peu obsessionnelle et un peu angoissée, ça me désangoisse complètement. Quand je suis là, ben je suis là et je passe de l'un à l'autre. Et...
Vous ouvrez toutes les
portes. Ah oui, j'aime beaucoup, mais je prépare beaucoup en amont. Par exemple, là, je travaille avec Clémence Beza, qui est ma grande complice pour la scénographie, une jeune femme, et on travaille déjà sur le TNP parce que, voilà, moi j'ai une maquette, je travaille dans la maquette, je pose
la rigueur dont on parlait.
Voilà, je travaille un peu, très classiquement. Donc, moi, ça me désangoisse complètement.
Et avec tout le temps, bon, pour reprendre quand même une certaine linéarité, est-ce qu'il y a des zones de réassurance qui font que votre processus de création a changé?
On sait qu'on a une certaine expérience, surtout dans la relation aux autres artistes, aux acteurs, aux actrices. Le plateau, on connaît par cœur, c'est bien, mais après, ce qui va naître, on sait jamais. Non, le doute peut être paralysant et peut être un moteur. Moi, Dieu merci, pour l'instant, c'est plutôt un moteur. Je veux savoir, je veux aller vers l'énigme, mais c'est toujours le doute. Non, au contraire, je crois que c'est difficile. Plus on a fait de choses et plus celle qui arrive est-elle nécessaire? Voilà, donc c'est peut-être
vous
plus compliqué.
Êtes très dans le questionnement plutôt que de répondre aux choses ou donner des choses définitives, et c'est ça qui est total en fait, qui est ce vertige, c'est tout, de saisir tout les failles, les pleins.
Moi, les artistes que j'aime m'ont posé des questions et m'ont pas donné de réponse. Ils me disent vas-y, ma grande, fais une partie du chemin, mais donc moi, ça serait d'une impudence absolue que de répondre aux questions. Non, je traduis le questionnement, le mystère, l'énigme dans Tartuffe. Qu'est-ce que c'est que la séduction entre un homme et une femme? Qu'est-ce que c'est que le consentement? Qu'est-ce que c'est que l'emprise? Molière écrit Tartuffe, il écrit trois actes de Tartuffe, il écrit Don Juan, il écrit cinq actes de Tartuffe. Il y a une porosité. C'est quoi cet homme transgressif, cet homme qui veut absolument des proies? Mais c'est un questionnement, moi, qui m'habitera toute ma vie. Et qui est au-delà de tout jugement. Ce serait misérable d'avoir un jugement. Je sais bien qu'on est à une époque du jugement aujourd'hui, pour tout. Vous savez, c'est comme dans J'arrive, coupez-lui la tête. Hein, c'est, voilà. Aujourd'hui, on passe à la trappe. Là, c'est de l'Internet, je ne sais trop quoi, des réseaux sociaux. Mais on est devenu fou comme...
C'est pour ça que moderne, il l'est toujours, en fait, Molière.
Ah oui, absolument. Oui, absolument, parce qu'il pose des questions. Il dit, alors vous en êtes où, vous en êtes où de ce voyeurisme? Oui, il y a le mari sous la table et les amants juste au-dessus. Et vous en êtes où qui regardez ça? C'est très intéressant, parce qu'il nous implique. Il nous implique.
Merci pour tout ce voyage.
Merci beaucoup.
Et on ouvrira toutes ces secondes portes et ce chemin.
À bientôt.
Merci, Macha.
Merci.
Et voilà, on s'est salués. On a laissé derrière nous l'esthétique Macha, la présence et l'absence dans cette règle du jeu à hauteur d'enfance, la force, la pudeur, l'art, la fragilité, tout y était, quelle traversée. Le théâtre comme remède au chaos, une clé de plus sur la route de la vie, avec le temps pour confidence. Macha est toujours à une place et à une autre. De la même façon, une création en appelle une autre. Troubles faits, collections curieuses et choses inquiètes est à voir parallèlement à la nouvelle mise en scène de Macha, le spectacle Tartuffe de Molière. L'art est une conversation en mouvement. La rêverie fait ses valises où Macha veut bien les y déposer. Elle poursuit de célébrer l'inattendu, d'apprivoiser pour nous l'enfant éternel. Tous les possibles. Et tous les impossibles perpétuent de se répondre. Et le hasard, qui est un ami de Macha, ne se trompe jamais. Alors, l'élan dramatique poursuit sa route en clair-obscur, d'un côté et de l'autre, du miroir.
Du vent dans les pages, avec Chloé.
Se laissait-il tomber l'enfant du tabouret rouge? Dans quel rêve, dans quel monde, pour rejoindre quoi? Sur le carrelage jaune et la cuisine, le tabouret en formica comme estrade. Tu dirigeais un orchestre imaginaire, carré rouge terrible. Je me rappelle ton bras sur le front d'enfant de 4 ans, mon émotion devant ton geste de crainte. Rien ne meurt de ce que l'on a aimé ou douté dans cette dernière enfance.
Co-réalisation et sound design, Stéphane Joly. Voix off, François Nicolas. Merci au Palais de l'Archevêché d'Aix-en-Provence pour leur accueil. Merci à Macha Makeyev pour ce partage et le supplément d'âme.